Mesdames, messieurs, Yel, bonjour. Ici Monsieur Côté et voici 3 pour toi. 3 actualités pour t'informer, mieux comprendre, t'inspirer et faire la première édition du printemps. Eh bien, 3 pour toi, édition du jeudi 21 mars 2024, ça commence maintenant. Mesdames, messieurs, alors, le Canada, on apprenait chez TVA Nouvelles le mercredi 20 mars que le Canada donne l'exemple et adopte une résolution pour la paix en Palestine. Et essentiellement, ça dit qu'on va cesser, le Canada cesse d'envoyer des armes à Israël. Autre chose, ben, lundi, les élus du gouvernement du Canada se sont réunis au Parlement canadien et ils ont adopté une motion qui déclarait là, un cessez-le-feu, là, je vous lis une partie de l'article, cessez-le-feu immédiat demandant au gouvernement de cesser l'approbation et le transfert d'armes à destination d'Israël. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré « Depuis le 7 octobre, hein, là où les attaques avaient commencé, nous n'avons approuvé que des permis pour des marchandises non létales, donc pas mortelles, et compte tenu de l'évolution rapide de la situation sur le terrain, a-t-elle ajouté, nous n'avons approuvé aucun permis depuis le 8 janvier. » Voilà, Mélanie Joly. Autre chose à dire, ben, on a estimé, Radio-Canada, estimé que par année, c'était environ 21 à 26 millions de dollars de vente de matériel là, guerrier à l'État d'Israël que le Canada faisait. Évidemment, Israël ne s'est pas fait prier pour répondre à ça. Et ils ont dit, ben, essentiellement, le Canada nous prive d'un droit de se défendre. Droit de se défendre, faut remarquer que depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas contre les Israéliens, où il y a eu à peu près 1200 victimes, eh bien Israël a répliqué et au dernier compte, on est désormais à plus de 30 000 victimes chez les Palestiniens. Si vous faites un calcul mathématique, chose que je vais vous éviter de faire parce que je l'ai fait, eh bien, ça nous donne 25 Palestiniens pour un Israélien. Alors, est-ce qu'on peut réellement parler, à ce moment-là, de droit de se défendre? Ou est-ce qu'on tombe pas plutôt dans autre chose? Voilà, faut rajouter que le Canada a déclaré qu'il, non seulement qu'il stoppait la vente de matériel militaire, mais il était, prenait une position pour que le Canada décourage les colons israéliens d'aller s'étendre sur le territoire palestinien. Et le Canada a rajouté on voulait une création d'un État palestinien avec une négociation juste là, entre les deux États. C'est essentiellement la position canadienne officielle, mais on visait, là, les partis politiques canadiens visaient la plupart pour une reconnaissance de l'État d'Israël, ce qui aurait été une première par un pays du G7, mais on n'est pas allé jusque-là. Mais on encourage fortement une négociation là, pacifique, juste entre les deux États. Et je pense que le Canada pourrait reconnaître Israël assez rapidement à ce moment-là. Alors, pourquoi? Oui, on doit dire que le sénateur américain Bernie Sanders, sénateur du Vermont, si je ne me trompe pas, Bernie Sanders, qui est un Américain qui lui-même a des origines juives, hein, eh bien, il a félicité le Canada pour cette prise de position. Il est évidemment pour la paix. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que ça affecte à peu près tous les pays du monde, où ça divise les gens, où on se retrouve un peu sans nuance pour ou contre Israël, pour ou contre les Palestiniens. Voilà. Et ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus, on remarque dans plusieurs pays du monde, qui n'est pas juste Israël, la Palestine, que ben, il y a une montée des crimes haineux, hein, de la frustration. Ça crée des instabilités dans les gouvernements au Canada. Il y aura des élections l'an prochain ou peut-être l'autre. Et plusieurs personnes pro-Palestine ont fait élire des députés libéraux de M. Trudeau. Et dans d'autres comtés, plusieurs personnes pro-Israël ont fait aussi élire des députés pro-Trudeau du Parti libéral de M. Trudeau. Alors, même dans le Canada, et j'imagine que c'est la même chose un peu ailleurs dans le monde, ben, il y aura des divisions et ça va favoriser les autres partis politiques. Au Canada, par exemple, ça va probablement favoriser les partis conservateurs. Voilà, on reconnaît aussi que la charte des Nations Unies, hein, à l'ONU, ben, on reconnaît à l'article 1.2 l'autodétermination des peuples. Donc, les nations ont le droit de se déterminer et de se déclarer pays. C'est un droit reconnu en droit international. Donc, voilà pour ça. 30 000 pour 1 200, 25 pour 1. Est-ce qu'on n'est pas plutôt là dans la vengeance? La question se pose et le monde regarde. Question, oui, nouvelle numéro 2. Eh bien, aussi dans notre journal de Montréal, c'était, je pense, mercredi dernier, on n'en avait pas parlé, sous la plume de la journaliste Frédéric Giguère. C'était le mercredi 13 mars. Eh bien, on nous apprenait que, attention, sujet sérieux, l'intelligence artificielle peut aussi faire des ravages. En effet, dans une école au nord de la région métropolitaine de Montréal, des élèves de niveau secondaire, hein, environ 14 à 17 ans, eh bien, ils ont utilisé une application qui permet de téléverser des photos et avec l'intelligence artificielle, ça va transformer ces photos de personnes qu'on connaît, des amis, des collègues de classe, tout ça, en pornographie. Voilà. Alors, imaginez comment les victimes, en ce cas-ci des jeunes, vont se sentir en découvrant ces images qui auraient pu, qui peuvent, qui ont peut-être circulé sur les réseaux sociaux, que les gens se seraient envoyés par texto, par message, tout ça, et ça pourrait se rendre jusqu'à leurs amis, jusqu'à leurs parents, ça pourrait circuler jusqu'aux enseignants, le père, la grand-père, imaginez les oncles, les tantes, tout ça, ces gens-là auraient pu voir. Et donc, imaginez l'atteinte à la réputation, qu'est-ce que ça va faire sur la réputation de la jeune personne, puis c'est pas mieux pour les adultes. Qu'est-ce que ça va faire sur sa motivation pour aller retourner à l'école, ses études et peut-être même sa future carrière. Donc, voilà, citation dans le journal, on dit jusqu'à présent. La police a pu identifier une dizaine de victimes, autant des garçons que des filles. Elles sont toutes mineures et étudiantes dans une même école secondaire que la personne qui a au début téléchargé puis créé ces images-là. Loin de prendre la situation à la légère, la police Thérèse de Blainville a rencontré toutes les personnes qui se sont partagées les photos, soit une cinquantaine de jeunes. Plusieurs d'entre eux pourraient aussi faire face, dit-on, à des accusations criminelles, soit possession, distribution de pornographie juvénile. Et lorsque l'enquête sera terminée, le directeur des poursuites criminelles et pénales, en fait, c'est l'avocat du gouvernement qui est en charge de dire si oui ou non on amène ça devant le juge, au tribunal, eh bien, il pourra décider de poser des accusations. Donc, c'est là qu'on irait. Eh bien, ben pourquoi c'est important? Ben ça peut sérieusement changer la vie des personnes affectées, des victimes. Hein? C'est allé aux États-Unis, au Canada, jusqu'à de l'automutilation. Il y a même des gens qui se sont suicidés suite à ça. C'est très sérieux. C'est aussi ben, de la création de pornographie juvénile. Hein? La loi canadienne, si on va voir le Code criminel du Canada, il cite à l'article 163.1, paragraphe 1, ben, on décrit la pornographie juvénile, puis on dit petit a, qu'est-ce que la définition de la pornographie juvénile? Eh bien, il s'agit de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques. On dit petit paragraphe suivant i, soit où figure une personne âgée de moins de 18 ans, ou présentée comme telle et se livrant, ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite. Double I en dessous, l'autre paragraphe, soit dont la caractéristique dominante de l'image est la représentation dans un but sexuel, d'organes sexuels ou de la région anale d'une personne âgée de moins de 18 ans. Voilà. Et là, on parle des écrits et tout. La production, la définition du Code criminel canadien de production de pornographie juvénile, mais ça dit alinéa 2, 163.1.1.2. Quiconque produit, imprime ou publie ou en sa possession en vue de la publication de la pornographie juvénile est coupable d'un acte criminel. Et là, on dit qu'on est passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans. Et la peine minimale, c'est un an de prison. Et là, après ça, on décrit la distribution de pornographie juvénile. Et c'est la ligne 3. Mais on dit quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte la pornographie juvénile ou en fait la publicité ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l'exporter ou d'en faire la publicité. Tout ça est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal, dit-on, de 14 ans. Et encore une fois, la peine minimale là, au code criminel, c'est 1 an. Et là, quand on dit possession de pornographie juvénile, c'est le paragraphe 4, ben là, on dit, ben là, on est punissable de soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement de 10 ans, peine minimale d'un an, et ainsi de suite. Voilà, alors c'est très grave, puis d'autant plus que ça pourrait être aussi tomber sous le chef de diffamation, atteinte à la réputation, et il y a aussi des articles dans le code criminel là-dessus. Ça peut nuire à la réputation de quelqu'un qui veut appliquer pour un emploi, pour une université, un cégep, peu importe. Voilà, alors on veut pas ça pourquoi? Ben parce qu'on veut pas ça pour nous, on veut pas ça pour nos amis. On veut certainement pas ça pour nos frères, ni nos sœurs, ni nos enfants, si on en a, là, cet âge-là. Voilà, c'est un sujet très sérieux. Et voilà, je termine avec la nouvelle numéro 3. Eh bien, selon toujours TVA Nouvelles, le 20 mars, eh bien, Donald Trump, supposément très très riche, serait proche, dit-on, d'avoir de la panique, parce que la date limite pour payer le montant de son amende, en tout cas la caution, une partie, de l'amende qu'il a eue à New York récemment. Un juge de New York l'a condamné, et c'était pour un demi-milliard de dollars, n'est-ce pas? Et donc, on nous dit quoi? Condamné à 450 millions, près de 450 millions d'amende à New York par un juge, condamné de fraude immobilière. Ça veut dire quoi? Ben, en fait, il avait exagéré la valeur de ses immeubles, de ses maisons, de ses buildings, pour emprunter plus, là, pour avoir plus d'argent des banques pour son hypothèque. Et c'est ça qui a été jugé comme étant de la fraude, n'est-ce pas? Eh bien, la date limite pour payer, ça serait le 25 mars. Et ben j'ai fait rapidement, ça nous dit que c'est lundi prochain, le 25. Chasse aux sorcières, évidemment, il a dit, ben c'est une chasse aux sorcières, c'est une stratégie de la victime, toujours. Et s'il ne paie pas son 100 millions minimal de caution là, pour ce demi-milliard d'amende, eh bien, les intérêts montent de plus de 100 000 $ par jour. On nous dit un peu plus loin dans l'article que les banquiers alentour de Trump, les assureurs, ben ils commencent à déclarer, leurs avocats, qu'ils ne veulent pas prêter plus de 100 millions de dollars. Parce que peut-être que Trump, là, commence... Les banquiers se parlent entre eux, les assureurs se parlent entre eux, et peut-être qu'ils trouvent que Trump est un trop grand risque. Hein? Comme on dit en anglais, il n'est pas bankable. Voilà, pourquoi c'est important? Bien, parce que c'est un candidat pour les élections présidentielles d'un pays extrêmement important, voisin du Canada, une grande puissance économique dont, encore une fois, la stabilité ou l'instabilité va affecter le monde entier. Est-ce que Trump serait menteur? Est-ce qu'il approche la faillite? Voilà, et est-ce que on peut se poser la question, est-ce que ça va le pousser à vouloir plus gagner l'élection présidentielle pour essayer d'éviter peut-être des sanctions? On rappelle qu'en Ohio, cette fin de semaine, il aurait déclaré que s'il n'était pas élu, il prédisait un bain de sang aux États-Unis, ce qui sont des mots extrêmement forts. Voilà. C'est tout pour moi. C'était vos trois actualités. On rappelle le Canada d'un exemple et a adopté une déclaration pour la paix et, en quelque part, la reconnaissance de la Palestine. L'intelligence artificielle, nouvelle numéro 2, utilisée pour créer de la pornographie juvénile qui, même si elle est fausse, elle constitue au sens de la loi de la pornographie juvénile. Et finalement, Donald Trump qui semble avoir de la difficulté à payer ses dettes, malgré qu'il se déclare plusieurs fois très très riche, un milliardaire. Eh bien, terminons avec un proverbe latin, très connu. On dit « civis pacem parabellum hein? ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Eh bien, peut-être qu'on devrait l'adapter et dire aussi « civis pacem parapacem ». Si on veut la paix, il faut préparer la paix. Voilà, parce que quand on regarde alentour de nous, on voit que Suite à la pandémie, depuis 2-3 années, avec les réseaux sociaux, l'Internet, on voit qu'en politique, ça se corse. On voit qu'il n'y a plus d'agressivité sur les, dans les relations entre les humains, politiciens, les gens dans les écoles, les gens chez le médecin, à la clinique, dans les rues, dans nos métros, nos transports en commun, dans la famille et les amis. Peut-être qu'on devrait plutôt faire des efforts pour se rapprocher et se parler. Civis pacem, para pacem. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne semaine à vous tous. On se reparle bientôt. C'est à vous de jouer!